Amen. Merci. Bonjour à tous. Merci Martial pour nous avoir conduits dans ce culte. Je crois que le Seigneur est en train de nous parler en ce début d'année particulière. Les choses s'accélèrent, les événements qui nous entourent ont parfois de quoi nous inquiéter. Mais nous avons un Dieu qui règne et qui nous parle au travers de sa parole. Et on va donc continuer une thématique que j'avais abordée déjà à la fin du mois de novembre. Et je voudrais développer un petit peu cette thématique de manière concrète pour nous exhorter justement à ce retour, pour nous exhorter à être prêts, pour que l'on focalise nos regards sur ce qui est vraiment important. Vous savez, Paul, quand il priait pour les Philippiens, il ne priait pas pour la prospérité, il ne priait pas pour que Dieu résolve les petites choses du quotidien, et il est capable de le faire. Il priait pour que les Philippiens puissent discerner ce qui est important, afin qu'ils soient prêts au retour de Jésus. C'est des prières qu'on doit faire les uns pour les autres. Discerner ce qui est important. Je ne sais pas si vous priez pour votre voisin là, qui est assis à côté de vous, pour votre conjoint, pour vos enfants. Priez non pas pour qu'ils aient la prospérité, pour que tout aille bien pour eux, pour que le Seigneur aplanisse, qu'il n'y ait pas de difficultés au travail. Ça, bien sûr, il faut prier. Mais priez pour que votre voisin, notre proche, puisse discerner ce qui est important. C'est vraiment de ça qu'on a besoin. Alors, la scène se passe en ce jour-là dans une salle de culte de la côte est des États-Unis. Une foule est rassemblée pour le culte du dimanche matin de cette congrégation dans une petite ville qui s'appelle Enfield. Enfield, ça se situe dans l'état du Connecticut. On a moyen d'enlever le pavé qui est au milieu, là. Ah pardon, non, je l'ai sur l'écran de contrôle, excusez-moi. C'est l'écran de contrôle qui est parasité. Donc ce jour-là, il fait chaud, mais c'est supportable. Ils n'ont pas la clim encore. Et le culte se déroule comme à l'accoutumée, comme un autre culte du dimanche matin. Comme tous les dimanches, depuis des années, les paroissiens font, entre guillemets, leur devoir dominical. Puis ils vont repartir chez eux après le culte jusqu'au dimanche suivant, et la routine va se poursuivre. Nous sommes le 8 juillet 1741, il y a presque trois siècles. On est plus de 100 ans après le débarquement du Mayflower, vous savez, ce bateau célèbre qui transportait des puritains européens qui adoraient le Seigneur et qui étaient en quête d'une société meilleure outre-Atlantique. Et Enfield n'est pas loin du Mayflower, hein, du Plymouth, hein, c'est le lieu historique du débarquement. Et 100 ans plus tard, dans cette région d'Enfield, la ferveur évangélique qui était là à l'origine, hein, c'est ce qui a donné lieu, par exemple, à la fête de Thanksgiving. Hein, ils ont remercié le Seigneur la première année parce qu'ils ont fait des récoltes, ils ont pu être nourris, ils ont survécu un hiver terrible. Et bien, 100 ans plus tard, la ferveur évangélique n'est plus ce qu'elle était. Elle est tombée complètement. Et on pourrait même parler de tiédeur, voire même de sommeil profond. La flamme de l'Évangile, qui était là à l'origine, a laissé place à la religiosité. Les gens font leur culte. Et malgré les efforts du pasteur, rien n'y fait. Donc 100 ans après, à Enfield, ce jour-là, il ne reste quasiment plus rien d'une foi authentique. Et là, c'est le moment du sermon. Et après le sermon, ça sera terminé, le pasteur s'apprête. Enfin, tout le monde partira et rentrera chez lui. Donc les gens attendent que le pasteur monte en chaire. Mais ce jour-là, ce n'est pas le pasteur habituel qui va prêcher, mais c'est un visiteur. Alors on entend déjà les murmures dans la salle. Oh, j'espère que ça ne sera pas trop long. J'espère qu'il ne s'appelle pas Pierre. J'ai du monde à la maison. J'aimerais bien avoir le temps de les accueillir. Ah, mais je dois sortir mon chien. Il faut vraiment qu'il se dépêche. Ce pasteur visiteur a parcouru 45 kilomètres qui le séparaient de sa congrégation à lui habituelle. Sa congrégation qui est Northampton, dans le Massachusetts, c'est un état voisin. Et le pasteur visiteur ce jour-là s'appelle Jonathan Edwards. Et ce que les gens de cette congrégation d'Enfield ne savent pas encore, c'est qu'il va prononcer ce 8 juillet 1741 à Enfield, Connecticut, un des sermons les plus inspirants de ce qu'on a appelé le premier grand réveil de la côte est des États-Unis, à savoir des pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère. Et ce jour-là, le Saint-Esprit va souffler sur la ville d'Enfield, sur la congrégation. Les gens vont pleurer publiquement sur leurs péchés. Ils vont se repentir en masse de cette vie de tiédeur. Parce qu'un homme aura osé ce jour-là prêcher la repentance, la sainteté de Dieu et la perdition des impies. C'est des thèmes qui ne sont pas à la mode. La repentance, la sainteté de Dieu et la perdition des impies. Alors aujourd'hui, cette salle n'existe plus. Mais il y a une pierre, si vous visitez localement, qui commémore ce jour. Un jour de repentance sous l'effet de la parole de Dieu, qui rappelle cette fameuse lecture que Esdras a prononcée au chapitre 8 de Néhémie et qui a entraîné également une repentance de masse. Alors je vais faire un petit rappel du message que j'avais donné au mois d'octobre, très rapidement. On avait défini ce qu'était la repentance. Alors dans les Bibles modernes, ça se traduit par changer d'attitude ou changer tout simplement. La repentance, on avait vu, c'était une décision que l'on prend à un moment donné sous l'effet d'un état intérieur d'humiliation, de contrition, de brisement, de renoncement, de pleurs sur ses péchés. C'est une décision que je vais prendre et que je vais associer à ma foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que je suis conscient de mes péchés, je les apporte à Dieu, mais en plus, je sais que Dieu a le pouvoir de les pardonner parce qu'il a donné Jésus, son Fils unique, pour pardonner mes péchés. Et cette confession des péchés, ce pardon des péchés qui est donné en Jésus-Christ, eh bien, nous assure ce qu'on appelle la conversion et nous donne accès à la réconciliation avec Dieu. Nous avons la vie éternelle, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes nés de nouveau. D'accord ? Et donc nous sommes, là aussi la partie légale, juridique, nous sommes déclarés justes, nous qui étions déclarés pécheurs, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Hein. Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis, deuxième conséquence, c'est que notre vie est transformée. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. C'est la partie vitale. 2 Corinthiens 5, 17, ce verset que vous devez connaître par cœur, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Voilà ce que c'est que la repentance. C'est un processus donc, qui conduit à un changement de statut, à une nouvelle vie. Alors parfois, on croit que la repentance est un acte isolé. Ça y est, je me suis repenti, j'ai reçu la vie éternelle, j'appartiens à Jésus-Christ, tranquille, j'ai plus qu'à attendre. Ben non, la repentance, ce n'est pas un acte isolé lors de notre nouvelle naissance. C'est ce qui s'est passé, par exemple, lorsque Jésus et Jean-Baptiste ont prêché le même message, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Ça, c'est, ils prêchaient au peuple juif, et les gens venaient se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés, ils se sont repentis, et ils ont décidé de suivre Jésus-Christ. Ça, c'est initial. Mais le processus est un processus continu. Alors, ce n'est pas la nouvelle naissance sans arrêt, on ne renouvelle pas la nouvelle naissance, on naît de nouveau une seule fois. Mais, comme vous le savez, notre marche chrétienne, elle est sans cesse entachée de péché. Tous les jours, nous péchons. Nous ne sommes plus pécheurs par nature, inconscients, mais tous les jours, nous commettons des péchés. Pourquoi ? Ben tout simplement, c'est ce que dit Jérémie, parce que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Et parce que notre vieille nature qui se corrompt, nous dit l'apôtre Paul, eh bien, elle est encore présente en nous. C'est un état un peu spécial où on est à la fois au ciel dans l'espérance de l'attente de Jésus et à la fois sur cette terre corrompue par ce péché, luttant sans arrêt pour le péché. Et cette vieille nature nous fait sans arrêt prendre des chemins de traverse. Sans arrêt, on va dévier du plan de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous encourage à être vigilants Et cet appel à la repentance doit être quelque chose de permanent. Je le répète, on ne doit pas naître de nouveau tous les jours, ce n'est pas ce que dit la Bible, mais on doit se repentir régulièrement, aussi souvent que nécessaire pour garder notre communion avec Dieu. Et on le voit dans l'Ancien Testament. Sans arrêt, Dieu appelle son peuple, ce peuple élu. Sans arrêt, il l'appelle « Revenez à moi ». On l'entend comme un refrain pour ceux qui lisent régulièrement leur Bible. Et dans le Nouveau Testament, cet appel à revenir à lui, eh bien, Jésus va l'illustrer par le lavage des pieds. Et on va lire dans l'évangile de Jean, vous connaissez ce texte par cœur, Jean chapitre 13, où Jésus va laver les pieds. Donc je ne vais pas le commenter, mais on va simplement lire ce que va dire Jésus à ce sujet. Jean chapitre 13, verset 10. Jésus lui dit, donc il parle à Pierre, hein, « Celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver, entre parenthèses, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « Celui qui est baigné, c'est celui qui a eu le pardon de ses péchés, qui est né de nouveau. » Celui-là, il n'a pas besoin de se laver, mais il a besoin de se laver les pieds. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les routes étaient poussiéreuses, on marchait d'une ville à l'autre, on se salissait les pieds. Ça, c'est l'image des péchés qu'on commet au quotidien. Et donc, on a besoin de se laver les pieds régulièrement. On a besoin de confesser nos péchés au Seigneur pour garder cette relation, cette pureté, parce que le Seigneur est saint et parce qu'il est pur. Et ce réveil d'Enfield s'est produit de maintes fois dans l'histoire. Je vous ai parlé du texte d'Esdras, de Néhémie, on l'a étudié récemment dans les études du vendredi. D'accord ? Il y a eu aussi cette repentance sous Josias. La parole avait été complètement abandonnée. À un moment donné, il nettoie le temple. Ah, on a retrouvé le livre de la loi. Quel hasard ! Et donc là, le roi Josias lit le livre, il déchire ses vêtements, état de contrition, il revient à Dieu. Voilà. Donc il y a de nombreux réveils de ce type-là. Plus récemment, on peut citer les réveils écossais, sous l'influence de John Knox, au XVIe siècle. Vous connaissez John Knox, si vous avez visité Genève, le mur des réformateurs, l'un des personnages, c'est John Knox, dont Marie Stuart disait « Je crains les prières de John Knox beaucoup plus que toutes les armées d'Europe rassemblées. » c'est ce qu'elle disait, Marie Stuart. Okay. Et puis il y a le réveil gallois aussi, du début du XXe siècle, 1904-1905. Donc sans arrêt, il y a eu dans l'histoire de l'Église, il y a eu des réveils, et c'est toujours la même chose, c'est toujours, il commence par la parole de Dieu, d'accord ? La parole de Dieu, tiens, c'est John Knox, voilà, à Genève, et la parole de Dieu qui précise que l'homme est pécheur par rapport à un Dieu saint, et c'est pour ça qu'il a besoin, pour revenir à Dieu, il a besoin de se repentir. Et c'est une notion qui s'oublie tellement facilement, parce qu'on est pris dans le quotidien, on oublie la parole de Dieu, on oublie la repentance, on oublie le péché, on devient insensible. Et c'est pour ça aussi, ce matin, j'aimerais vous exhorter à être vigilant à ça. Parce que si le Seigneur revient dans 10 minutes, voilà, et que je ne me suis pas repenti, je ne sais pas ce qui va se passer, Dieu va juger, mais voilà, on a besoin en fait de nous présenter, comme disait Paul à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir. Si je ne me suis pas repenti depuis 5 ans, et que le Seigneur revient, je vais me présenter devant lui, je vais lui dire quoi ? Je vais avoir la bouche fermée, comme la personne de la parabole qui est rentrée sans l'habit de noces. » C'est Roy Ession, dans son livre, que vous connaissez pour certains, qui disait que le réveil, ce n'est pas le plafond qui s'envole. Souvent, on pense que le réveil, c'est une espèce d'effusion, que les gens sont exaltés, ils chantent, ils dansent, ils crient, etc. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le plafond qui s'envole, disait Roy Ession, mais c'est le plancher qui s'effondre. Quand le Saint-Esprit me révèle à quel point je suis pécheur, à quel point je suis perdu par rapport à un Dieu saint, et ça me pousse à la repentance. Alors j'aimerais maintenant, après ce rappel, illustrer cette notion de manière plus pratique dans la parole de Dieu par un exemple. Vous avez deviné l'exemple que j'ai pris. Hein ? On va prendre l'exemple de Jonas, parce que je crois que Jonas, c'est vraiment l'exemple de la personne qui, à un moment donné, prend un chemin de traverse. Il fume la moquette, on va dire, en termes modernes. Et on va voir comment Jonas va revenir à Dieu. C'est intéressant, c'est vraiment modélisant, parce que moi, je me retrouve. Je me retrouve dans Jonas. Donc Jonas, ce n'est pas un païen qui ne connaît pas Dieu, qui a besoin de naître de nouveau, pas du tout. C'est un prophète de l'Éternel, donc statut très élevé. Ça serait un super pasteur, président de je ne sais quelle congrégation, etc. Vous voyez, un homme bien en vue, un grand enseignant d'un grand institut biblique, c'est à peu près l'équivalent de nos jours. Un homme qui a été appelé par Dieu, donc qui connaît Dieu, mais on verra qu'il ne le connaît pas bien en fait. Pourquoi il ne le connaît pas bien ? Ben, parce qu'il pense qu'on peut se cacher de Dieu. Donc si on pense qu'on peut se cacher de Dieu, si on pense que Dieu ne voit pas ce que je fais dans mon coin, ben, on ne connaît pas bien Dieu. Allez, on va lire l'histoire de Jonas. C'est un peu long, je vous propose de lire les deux premiers chapitres, mais vous verrez que ces deux chapitres, il y a des contradictions. Enfin, il y a vraiment le passage d'un état à l'autre qui est édifiant. Moi, ça m'a extrêmement parlé par rapport à ce que j'ai envie de vous transmettre ce matin. Alors Jonas, c'est dans les petits prophètes, hein. Alors pas facile à trouver, c'est entre Abdias et Michée, ça vous aide pas beaucoup. Bon, tournez un peu quelques pages et puis vous allez tomber sur Jonas. Voilà, je lis donc dans la version de la Colombe. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Hein, c'est l'équivalent aujourd'hui, c'est Pierre, lève-toi et puis va prêcher à Paris. Ou va prêcher à New York. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Quelle réaction ! Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc Dieu l'appelle, il s'enfuit. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer. Tiens, Dieu rentre en scène, il se dit, tiens Jonas, je tape à ta porte. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Troisième appel de Dieu. Donc Dieu insiste. Hein. Alors ils lui dirent, explique-nous qui t'attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays, de quel peuple es-tu? Il leur dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, qu'as-tu fait là? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait expliqué. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jonas, il est prêt à mourir, mais il ne cite toujours pas Dieu, hein, vous avez vu. Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Éternel, nous t'en prions que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas d'un sang innocent, car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Vous voyez le paradoxe, Jonas, il ne parle pas du tout de Dieu. C'est les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont une certaine crainte, qui, eux, invoquent l'Éternel. C'est vraiment le paradoxe. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Voilà, premier acte, Jonas complètement muet, complètement paralysé. Il ne fait pas référence à l'Éternel, il a le cœur endurci. Maintenant, acte 2, comment Jonas va faire pour s'en sortir ? C'est très apprenant pour chacun de nous. Et surtout, c'est très apprenant de voir avec quelle obstination Dieu va sans arrêt, alors ce n'est pas écrit littéralement « revenez à moi », mais comment Dieu sans arrêt va faire pour ramener Jonas à lui par des circonstances, par des païens, par toutes sortes de moyens, il va vraiment faire le maximum. C'est là qu'on voit qu'on a un Dieu merveilleux et miséricordieux. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Littéralement, hein, le mot « fit intervenir », ça signifie « élection ». D'accord ? Au sens élu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est le même mot qui est utilisé. Dieu élit un poisson pour engloutir Jonas. Jonas, dans les entrailles du poisson, prie à l'Éternel son Dieu. Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein des séjours des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplerai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, l'abîme m'a enserré, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux entrailles, ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu as fait remonter vivant du gouffre. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. » Et c'est une parole prophétique, puisque au verset 11, la Bible nous dit « L'Éternel parla au poisson. » C'est pas habituel, ça. Enfin, moi, j'ai essayé la pêche à la truite, je n'ai jamais réussi. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Voilà, donc on voit que Jonas, dans ce livre qui porte son nom, il fait un faux pas. Il glisse dans la foi, il perd les pédales. Et ça nous montre que même le plus engagé des disciples peut un jour chuter, tomber, s'éloigner de l'Éternel, endurcir son cœur, ne plus parler à Dieu. Quand je vous dis ça, je m'y retrouve. Ça m'est arrivé. C'est arrivé à David, avec Bathsheba, pendant 9 mois, rien. C'est arrivé à l'apôtre Pierre, qui a renié Jésus. C'est pour ça que Paul écrira que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Prenne garde de ne pas tomber. Voilà, donc ce chapitre 2 du livre de Jonas nous donne vraiment le mode d'emploi pour revenir à Dieu si tu as chuté. Alors je ne sais pas dans quelle situation tu es, je fais confiance au Saint-Esprit, peut-être tu as chuté il y a quelque temps et tu es revenu, peut-être que tu vas chuter, peut-être que tu es en plein dans la chute maintenant. En tout cas, ce livre va nous aider, parce qu'il nous montre de quelle manière on peut tomber dans l'endurcissement et la séduction du péché, et de quelle manière est-ce qu'on peut en sortir. Alors, il y a 4 enjeux, 4 caractéristiques d'une repentance sincère quand je suis tombé, une repentance inspirée par l'Esprit de Dieu. Ce que je vous propose, c'est de voir ces 4 caractéristiques, je vais vous les afficher, et puis on va les détailler un par un, si vous voulez, vous pouvez faire des photos, des copies d'écran. Première caractéristique, c'est vraiment l'enjeu de la communion avec Dieu, le lien que je vais avoir avec Dieu au quotidien. Deuxième caractéristique, c'est être vrai, ne pas avoir de faux semblants, ne pas porter de masque, ne pas faire comme si rien n'était. On a vu cette semaine avec les stagiaires du disciple émotionnellement saint, on a vu le faux moi, celui que je prétends être, que je ne suis pas. Je viens au culte avec un grand sourire, en fait je suis dans le péché, mais personne ne le sait. Et je fais semblant, je fais illusion. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Troisième point, c'est le retour à l'écriture. On est en plein dedans. Vous savez qu'on a mis en place un programme de lecture. Donc tout à l'heure, les Nasser nous donnera plus de nouvelles. Et c'est quelque chose, on se réjouit vraiment. Il y a eu une réponse massive de l'Église. On est hyper encouragés. On remercie le Seigneur pour ça. Et puis, la capacité à retrouver cette reconnaissance qu'on a exprimée ce matin à Dieu dans nos louanges, savoir être reconnaissant. Puis on verra quelques applications. En conclusion, Ok, pour ça, on y va. Alors, premier enjeu, c'est l'enjeu de la communion avec Dieu. Donc Jean, on a vu Jonas s'enfuit, hein, il désobéit littéralement à Dieu. Dieu lui dit une chose et Jonas, il part dans la direction opposée. D'accord ? Aucune référence à Dieu. C'est étonnant, hein, pour un prophète. Même quand chacun des marins se met à prier, Jonas, il a complètement oublié ce que c'était que la prière. Et c'est même les marins, on a vu, c'est eux qui invoquent l'Éternel, eux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont invoquer l'Éternel. On est complètement dans un paradoxe. Pourquoi est-ce que Jonas ne prie pas Dieu ? Pourquoi est-ce qu'on ne prie pas Dieu quand on est dans le péché ? Eh bien, parce qu'on a le cœur endurci, parce que la conscience nous en empêche, et même des circonstances dramatiques, hein, Dieu n'arrête pas de taper à sa porte, il envoie une tempête absolument surnaturelle, et Jonas, il descend au fond de la cale, il fait l'autruche. Et c'est une grande leçon pour moi, quand je reste dans le péché, eh bien, peu à peu, ma conscience va s'endurcir. Et Dieu parle, il tape à la porte de mon cœur, à travers un frère, une sœur, une lecture, un feuillet de méditation, mais ma conscience est endurcie. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » C'est le prophète Ésaïe qui dira « La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Parfois, je prie et on dirait qu'il n'y a pas de réponse à mes prières. » Est-ce que la main de l'Éternel est trop courte ? Non. C'est parce que peut-être il y a un péché. Je ne dis pas que quand Dieu ne répond pas à nos prières, il y a un péché tout le temps. C'est pas ce que je dis. Ça peut arriver. Mais en tout cas, ce sont nos péchés parfois qui empêchent Dieu de nous écouter. Et on en arrive à ce paradoxe du chapitre 1 où chacun des marins va prier son faux Dieu. Ils ont des faux dieux, on le sait. Ils prient leur faux Dieu. Alors que Jonas, lui, se cache dans la cale. Et il lui faut un double réveil. Premièrement, les marins descendent dans la cale, ils le secouent, « Réveille-toi, on est en train de couler. » Et il lui faut un réveil spirituel. Parce qu'à un moment donné, il prend conscience que si le bateau est dans cet état, c'est de sa faute. Et vous voyez, il faut attendre le verset 2 du chapitre 2 pour enfin voir Jonas adresser une parole à Dieu. Et je dis « enfin, heureusement ». Parce qu'à un moment donné, Dieu, à force de taper à la porte de notre cœur, Dieu finit par nous réveiller. Donc si ce matin, Dieu parle, tape à la porte de ton cœur, est en train, par des circonstances, par un verset que tu as entendu ce matin, par une remarque, un encouragement d'un frère et une sœur, si Dieu parle à ton cœur ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Essaye de comprendre ce qu'il est en train de lui dire. Parce qu'il faut savoir que les péchés non confessés ne rendent pas heureux. Ils ne rendent pas heureux. On peut très bien être abonné à Netflix et tout ça, et regarder toutes les séries qu'on veut, on n'est pas heureux. Parce qu'on est coupé de Dieu. Comme David, pendant 9 mois, il était coupé de Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait dans son psaume de repentance ? « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Évidemment, extérieurement, tout allait bien. Il y avait le grand sourire au palais, il souriait à tout le monde et tout, et à l'intérieur, ses os se consumaient. Donc peut-être ce matin tes os se consument parce que tu as un péché non confessé. Il est toujours possible de revenir au Seigneur. Il est toujours possible parce que Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en hésed, en bienveillance. Il est possible d'invoquer le nom du Seigneur et la communion est rétablie. Donc cet enjeu de la communion, cet enjeu du lien avec le Seigneur est un enjeu capital. Pour ça, il faut être honnête et transparent. Souvent, on cherche à excuser notre péché. Oui, mais tu comprends, c'est par nature, hein. Adam et Ève, ils ont péché, ils se sont cachés. Pourquoi tu t'es caché ? Oh, mais c'est Ève, c'est pas moi. Ève, oh non, c'est pas moi, c'est le serpent. On cherche des excuses. On nie ce qui est la réalité. Et Dieu demande de la transparence, de l'honnêteté, de l'authenticité. C'est ce que dira David dans le psaume 66. Hein, « Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Mais comme le Seigneur n'a pas vu de fraude, parce que David avait un cœur transparent devant Dieu, hein, il a écrit la moitié des psaumes, il a une transparence absolue. Il n'y a que ce péché de Bathsheba qui est un peu inexplicable. Mais bon, c'est comme ça. Et ici, donc, Jonas reconnaît sa détresse. Il reconnaît qu'il est responsable de cette situation. Il reconnaît que ça vient de Dieu. même si les marins l'ont jeté dans la mer, il reconnaît que tout ça, ça fait partie d'un vaste plan de Dieu pour le ramener à lui, pas pour le tuer, pas pour l'anéantir. Parce que si Jonas avait voulu, si Dieu avait voulu anéantir Jonas, il l'aurait foudroyé tout de suite, il ne serait même pas monté dans le bateau, il n'aurait même pas perdu l'argent de la traversée. Dieu l'aurait foudroyé tout de suite. Mais Dieu voulait le ramener à lui et il voulait que ça soit inscrit dans la Bible pour que nous, au XXIe siècle, nous chrétiens du XXIe siècle qui luttons avec ces mêmes problèmes, ce n'est pas nouveau, et ben qu'on ait un encouragement. Ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, afin que nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc la situation de Jonas, elle est terrible. Elle est sans issue à cause de la main de Dieu. Et voyez au verset 7, Jonas réalise que Dieu ne l'a jamais abandonné. Au verset 5, il va dire « J'étais chassé loin de Dieu ». Mais toi, Éternel, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Il se rend compte qu'il est passé à deux doigts. Je ne sais pas si vous connaissez, vous vous souvenez cette histoire à la fin du règne de David. Alors, ça varie selon les chroniques ou le livre des rois, mais on va dire, dans les chroniques, Satan excita David à faire un recensement. Et à un moment donné, il fait le recensement, il dénombre sa grande puissance, puis il se rend compte qu'il a péché. Et donc Dieu le dit, écoute, moi je te propose trois punitions, tomber je ne sais plus combien dans les mains de tes ennemis, et puis la troisième que David choisit, c'est tomber dans les mains du Dieu vivant. Parce qu'il dit, je préfère tomber dans les mains du Dieu vivant qui est miséricordieux et compatissant que tomber dans les mains de mes ennemis qui sont cruels. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il faut s'en souvenir, Dieu n'est pas là pour nous condamner. Si je suis dans le péché ce matin, si j'ai besoin de me repentir, j'ose pas parce que j'ai peur d'être puni, etc. Souviens-toi que l'Éternel est miséricordieux et compatissant. C'est dit dans le psaume 103. Notez d'ailleurs que Jonas, là, dans sa prière, il ne demande rien à Dieu. Il ne se plaint pas des conséquences de son péché. Il est authentique et transparent devant Dieu. Seigneur, c'est vrai. Je me rends compte, tu es tel type de personne, et moi je suis rien. Et c'est vraiment un abandon, un lâcher prise. Donc si tu as peur ce matin, parce que tu te dis, Dieu ne va jamais me pardonner, c'est trop, je suis dans le péché depuis si longtemps, et Dieu, il peut pas pardonner. Il pardonne à plein de gens, mais pas à moi. Eh bien non, c'est un mensonge du diable. Dieu est miséricordieux et compatissant. Et il pardonne. Troisième caractéristique que l'on voit chez Jonas, c'est le retour à l'Écriture. On avait vu au chapitre 1 que Jonas ne mentionne absolument pas Dieu. Et là, à partir du verset 2, il va constamment citer l'Écriture, citer ce dont il se souvient. Je vous ai mis quelques exemples là, mais c'est une citation continue à partir du verset 2. Vous voyez, au verset 3, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Ça fait référence au psaume 18, verset 7. Au verset 4, tout est vague et tout est flou, ont passé sur moi. C'est une référence au psaume 42. Au verset 5, moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux, psaume 31. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, au verset 6, c'est le psaume 69, etc. Vous voyez, on pourrait décortiquer ce texte. Vous le lirez tranquillement chez vous, mais Jonas ne fait que citer la parole de Dieu. Et j'en reviens, vous savez, je suis un peu un absolu, mais la mémorisation des Écritures est capitale dans ces cas-là. Parce qu'on peut citer l'Écriture, on peut prier l'Écriture. Par exemple, si je pense que Dieu n'est pas capable de me pardonner parce que je suis pécheur, je cite « Seigneur, tu es compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. » Lent à la colère, c'est littéralement en hébreu, avec un long nez. C'est ça que l'hébreu dit, un long nez. Hein. La moutarde, elle met du temps à arriver jusqu'au bout du nez. Hein. Il est très patient, le Seigneur. Il est très patient, mais il demande authenticité et transparence. Au verset 8, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. C'est le psaume 42, verset 7. Donc, souvenons-nous qu'on ne peut pas avoir le péché dans notre vie et l'Écriture en même temps. Et en tout cas, Jonas nous donne un exemple de retour à la parole de Dieu. Et on espère, avec les anciens, que ce plan de lecture que nous allons mettre en place sur 8 semaines vous aidera à revenir à l'Écriture. Je sais qu'il y en a parmi nous qui lisent régulièrement les Écritures, qui ont accepté de se joindre à nous, de redescendre à ce niveau, et on se réjouit pour ça. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, peut-être tu viens de te convertir, tu es jeune converti, ou peut-être même tu n'es même pas converti, tu n'es pas né de nouveau, tu peux lire la parole de Dieu. Hein? Si vous ne vous êtes pas inscrit aujourd'hui, il y a encore quelques exemplaires. On a prévu un peu de supplément. Vous savez, Dieu est un Dieu d'abondance. Il y a toujours un peu plus dans le royaume de Dieu. Donc, il y a un peu plus. On a quelques Bibles encore en réserve. Donc, rejoignez-nous dans ce plan de lecture. Vous êtes plus de 60 dans l'Assemblée à avoir signé pour ce plan de lecture. Retour à l'Écriture et Dieu va vous parler. Parce que oui, moi, je vous parle ce matin, mais je dis des bêtises. C'est des paroles humaines que j'utilise. Alors que la parole de Dieu, c'est une puissance. C'est écrit par le doigt de Dieu lui-même. La parole est capable de parler au cœur de chacun ce matin. Quatrième exemple, c'est la reconnaissance. Ça, c'est une caractéristique d'un retour à Dieu. Être capable à nouveau de se réjouir. La repentance véritable se traduit par un état de reconnaissance. Pourquoi est-ce qu'on est reconnaissant ? Parce que soudain, le poids du péché, le fardeau qui reposait sur moi, soudain, est libéré. Alors, avec les jeunes, on est en train d'étudier le voyage du pèlerin, donc la semaine prochaine, on attaque le chapitre 2, les jeunes. Hein. On attaque chrétien qui va rencontrer deux personnes. D'accord ? Il va rencontrer mondain et il va rencontrer évangéliste. Alors lisez bien votre chapitre. D'accord ? La semaine prochaine, on va étudier ça. Et donc, dans ce voyage du pèlerin, on voit à un moment donné que chrétien arrive, il a un gros fardeau, il le dépose au pied de la croix et il se sent libre. Et bien c'est ça en fait, la confession d'un péché, c'est une libération d'un fardeau. Hein, au psaume 81, verset 7, David dit, je ne l'ai pas affiché là, mince, il a dit « J'ai déchargé ton épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. J'ai déchargé son épaule du fardeau. » Et au verset 8, au verset 10, voilà ce que dit Jonas, donc en guise d'illustration. Jonas n'avait aucun espoir d'être délivré. Vous tombez dans l'eau en pleine mer. Hein, souvenez-vous, Erita Barley était tout seul. Il est tombé à l'eau, on ne l'a jamais retrouvé. Bon. Et il se disait, alors déjà tombé dans la mer, c'est presque perdu, avalé par un poisson, alors j'en parle même pas. Il se disait, ça y est, le ventre du poisson, c'est ma tombe. Et là, il est reconnaissant. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il a échappé de peu à la mort. Et il est notamment de nouveau en communion avec lui. Je me suis souvenu de l'Éternel, même dans le ventre du poisson, il n'y a pas de brouillage. Le Wi-Fi ne passe pas dans le ventre du poisson, mais l'Éternel entend. Même dans le brouillage, la prière de Jonas, la prière de repentance de Jonas est parvenue jusqu'à l'Éternel. Et souvenez-vous ce qu'on avait vu dans le verset d'Ésaïe 59, ce sont vos péchés qui m'empêchaient de vous écouter. Donc le péché empêche, mais dès qu'il y a repentance, authenticité, Dieu écoute et Dieu exauce. Et c'est pour ça que Jonas dit, je t'offrirai des sacrifices de reconnaissance. Alors 4 points, en résumé. Premier point, l'enjeu de la communion, rester en communion avec le Seigneur. Deuxièmement, être sincère, authentique, transparent devant lui, ne rien lui cacher parce qu'il voit tout de toute façon. Revenir à l'Écriture et être reconnaissant. Alors qu'est-ce qu'on peut dire comme application pour nous ? Je crois que le grand miracle du livre de Jonas, ce n'est pas simplement que Jonas a été délivré du ventre du poisson, mais c'est ce qui s'est produit dans le cœur de Jonas. C'est ça le grand miracle. C'est un cœur endurci soudain se réchauffe et provoque une transformation. Parce qu'humainement, rien ne pouvait sauver Jonas, mais le salut vient de l'Éternel. Et c'est pour ça que l'ange, quand il apparaît à Marie, elle lui dit « Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Yeshua ». Yeshua, Jésus, ça veut dire celui qui sauve. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, par son sacrifice, pardonne tous nos péchés, passés, présents et futurs, à condition qu'on revienne à lui. Et Jésus est venu pour incarner cette miséricorde, cette compassion de Dieu envers tous les êtres humains, envers Jonas, mais envers toi aussi, qui a besoin de son pardon ce matin. Et l'histoire de Jonas, c'est l'histoire de Jésus. Vous savez, Jésus, il s'est comparé qu'à une seule personne. En Matthieu 12, 40, qu'est-ce qu'il dit ? « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. » Jonas est un peu un type de Jésus-Christ. Vous voyez, quand il dit « tous les flots m'avaient submergé », ça fait référence à ce que nous dit Ésaïe 53, « le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui ». Quand il dit « je suis chassé loin de tes yeux », ça fait référence à Jésus sur la croix qui dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Jésus dira « il y a ici, en parlant de lui, il y a ici plus que Jonas ». L'histoire de Jonas est aussi notre histoire, ton histoire, ton histoire. Parce que nous étions tous un jour ou l'autre en train de fuir loin de la face de l'Éternel, et Dieu est venu vers nous en Jésus-Christ. Alors peut-être ce matin, tu n'as pas encore soumis ta vie à Jésus-Christ, à l'Éternel. Alors tu peux, dans la repentance, tu peux venir à lui ce matin. La porte est ouverte. Aujourd'hui est un jour de grâce encore. Et toi peut-être qui es converti depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu n'es pas à l'abri. Tu peux être comme lui. À un moment donné, entendre Dieu, le servir, faire des choses pour lui, mais refuser d'obéir. Jonas, c'est l'exemple du chrétien négligent. Ce n'est pas quelqu'un qui va renier complètement Jésus sous l'effet de la persécution, mais c'est quelqu'un qui va confesser des lèvres, peut-être, le dimanche matin, mais dont le cœur sera éloigné de lui. Jonas, c'est celui qui connaît la parole, qui est capable de citer des versets, mais qui n'obéit pas. Jonas, c'est celui qui a l'apparence de la piété, disait Paul à Timothée, mais qui renie ce qui en fait la force. Jonas, c'est peut-être aussi celui qui dit « je l'ai connu », mais qui ne garde pas ses commandements. Et Jean nous dit que c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Jonas, c'est peut-être celui qui marche, qui ne marche pas comme lui-même a marché, comme dirait l'apôtre Jean dans sa lettre. Jonas, c'est aussi celui qui va dire « Seigneur, Seigneur !» mais qui ne fait pas sa volonté. Et Jonas, enfin, c'est peut-être celui dont les épines étouffent la parole et vont la rendre infructueuse. Et Dieu est en colère contre Jonas. C'est un peu le paradoxe. Dieu est en colère parce qu'il hait le péché. Alors il est en colère contre Jonas. Et il pourrait l'exterminer dans sa fureur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais Dieu est patient. Il retient son bras. Dieu n'en a pas fini avec Jonas parce qu'il a besoin de lui. Il compte sur lui. Et Dieu compte sur toi ce matin. Si tu es éloigné de lui, Dieu compte sur toi. Il a besoin de toi. Il t'a appelé. Il a besoin que tu reviennes à lui. Peut-être ton cœur aujourd'hui est endurci par un péché. Et peut-être en apparence, tu es souriant à tout le monde, mais au-dedans de toi, ton cœur est sec. Tes os se consument ce matin. Tes prières ne parviennent pas jusqu'à l'Éternel. Ou peut-être tu ne pries plus du tout. Alors souviens-toi que le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère, il fait grâce à celui qui revient à lui. Il efface tout, il jette nos péchés au fond de la mer, il ne s'en souvient plus. Et comme maintes fois dans l'Ancien Testament, eh bien cet appel retentit, « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». C'est cité de nombreuses fois dans l'Ancien Testament. Que ces paroles puissent nous parler ce matin, en ce début d'année, où le Seigneur, je crois, dit quelque chose de particulier à cette Église. Revenez à moi, on va prier. Seigneur notre Dieu, je voudrais confesser ma négligence, mon cœur dur, mon manque d'amour, mon caractère de jugement, tout ce qui me sépare de toi. Tu es le grand Dieu de l'univers, Seigneur. Tu es celui qui a promis ton retour, comme l'a dit Martial tout à l'heure. Seigneur, aide-moi à être prêt. Aide-moi à restaurer cette communion. Rends-moi la joie de ton salut. Seigneur, j'ai besoin de toi. Chacun de mes frères et sœurs ce matin a besoin de toi. Seigneur, fais souffler le vent de ton esprit sur chacun de nous. Seigneur, montre-nous ta bienveillance. Montre-nous combien tu es grand, combien tu es un Dieu aimant qui pardonne pour celui qui revient à lui. Merci encore, notre Dieu. Amen.